France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. En matière d'alcool, nous sommes un pays ambivalent. Personne ne nie que l'excès d'alcool nuit à la santé, mais vous entendez, comme moi, monter aussi la petite musique des coutumes et traditions bien françaises qui font qu'un repas s'accompagne d'un verre de vin et que tirer à boulet rouge sur le ballon de rouge est contre-culture. Vous entendez, comme moi, que la prévention est bien là. C'est la modération qu'il faut prôner, pas l'abstinence. Pour preuve, si certaines villes accompagnent ce mois de janvier sans alcool, ce défi de janvier, le dry January, comme le disent les Anglais, c'est le cas de Paris, de Lyon, de Nantes par exemple, l'État, lui, se tient prudemment à l'écart de peur de se mettre à dos les producteurs de vin principalement, sans parler peut-être des cafetiers qui ont déjà assez souffert les mois ouverts fermés à cause du Covid, sans compter le assis debout qui est en cours en ce moment. Le Covid n'est pas tout à fait absent de cette discussion d'ailleurs, parce que l'apéro festif sur Zoom nous a aidé à passer le cap du confinement strict, c'est vrai, et parce que aussi l'angoisse des confinements a fait bondir chez certains leur consommation d'alcool. Ce mois de janvier, là pour certains, c'est donc une remise à niveau salvatrice. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose qui dit « ouais non mais c'est bon, c'est assez compliqué comme ça ». Ce qui est intéressant, c'est que ce mois de janvier sans alcool n'est pas destiné à tout arrêter. Il est là pour que vous puissiez jauger de votre consommation quotidienne, pour que vous compreniez si l'alcool vous manque, pour que vous compreniez la place que tient l'alcool dans votre vie sociale. Alors, est-ce que vous vous lancez? Est-ce que vous passez votre tour pour cette fois? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Avez désormais modifié votre consommation? C'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Vous êtes le premier, Jean. Soyez le bienvenu et bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors, Dry January, moi j'étais pas bien pendant les fêtes il y a 3 ans. J'étais vraiment pas bien, j'étais pas en bonne santé et je me suis dit tiens, peut-être que ça me ferait du bien de diminuer ma consommation d'alcool. Et j'ai entendu parler du Dry January et je me suis dit bon bah tiens, allez, lançons-nous, essayons quoi. Donc j'ai une petite consommation modérée, j'ai un alcool festif, je ne bois pas à midi, je ne bois que le soir en général et jamais d'alcool fort, surtout du vin et du pétillant d'Alsace. Et donc, oui,
c'est bien aussi.
On boit ce qu'on a. Hein,
ouais. Vous buvez régional, c'est bien.
Ouais. Et je ne bois pas de bière, en Alsacien, c'est assez étonnant. Okay. Quoi. Et donc, je me suis dit, bon, ben voilà, pour ma santé, faisons le test. Quoi. Et le bénéfice que moi j'en ai retrouvé de ce Dry January, c'est plus que pour un aspect d'un bienfait sur la santé, c'est surtout psychologique, en fait, le fait de pouvoir se dire. J'aime l'alcool, mais ma consommation, je ne suis pas dépendant de ma consommation. Et je peux la gérer comme je veux, quoi.
Et est-ce que vous avez changé justement votre consommation du coup en février, mars, avril, mai, etc. Est-ce que ça vous avait fait bouger quelques lignes ce mois de janvier ou est-ce que ça vous a juste permis de constater « Ok, je vais bien, donc je peux continuer à peu près dans les mêmes eaux ».
Non, c'est exactement ça. C'est « Ok, je vais bien, j'ai une consommation que je sais gérer, que je peux réguler et qui est raisonnable ». Et donc, je peux continuer à consommer raisonnablement comme je le fais, quoi.
Et c'est votre rendez-vous, visiblement, Jean, désormais, une fois par an, tous les mois de janvier.
Exactement.
Et ben voilà.
Les bonnes résolutions, il y en a certains, c'est le sport. Moi, j'arrête de boire pendant un mois.
Eh ben, écoutez, bonne résolution et on vous remercie beaucoup pour cette jolie entrée en matière pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Ariane Pommery de Villeneuve est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes patiente experte, formatrice en addictologie, en entreprise. Et Amine Benyamina est avec nous également. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. L'un ou l'autre, Ariane Pommery de Villeneuve, si vous le voulez, il a tout compris dans l'ordre, Jean, en fait. C'est à ça que ça sert, en réalité. C'est pas plus que ça, c'est pas moins, et c'est pas plus, en fait, que ce mois-là.
Oui, c'est exactement ça. Ben, merci, Jean, parce que c'est vrai que, comme entrée en matière, on pouvait difficilement faire mieux. Parce que l'objectif, effectivement, de ce mois, de ce mois sobre, c'est de faire une pause sur sa consommation d'alcool pendant un mois et de voir comment est-ce qu'on se comporte. C'est tout à fait différent du mois de novembre où on incite les gens à arrêter de fumer. Là, il s'agit de faire une pause sur sa consommation d'alcool et de s'observer et de pouvoir en tirer des conclusions éventuelles.
Est-ce que Amine Benyamina, vous avez constaté vous que la simple observation de soi-même et son rapport à l'alcool permet effectivement de changer sa consommation? Est-ce que c'est ça le premier bénéfice de ce mois, de ce qu'on en sait pour l'instant?
Tout à fait, c'est une manière de se prendre en photo. en gros, pendant un mois. Et comme le disait très bien Ariane, le but n'est pas d'arrêter de consommer de l'alcool comme ça l'est au cours du mois de novembre. C'est faire une pause. Et ce qui est important, c'est vraiment pas une contrainte, hein, c'est très ludique. Tout le monde peut être concerné par le défi. Mmh. Le défi, c'est pas une obligation. On se lance un défi et on voit si on est capable d'y arriver. C'est 30 jours, ça peut être 15, ça peut être moins, ça peut être plus. C'est extrêmement important. Parce que on passe souvent, en gros, vous l'avez très bien dit Fabienne, pour des empêcheurs de jouir, et évidemment, puisqu'on est des perturbateurs du lien social, très culturel, très, très ancré dans notre façon d'être. C'est pas le cas. L'idée, c'est de voir où on en est. Et tout le monde peut être concerné. Ceux qui n'y arrivent pas, ils se disent, finalement, je suis vraiment très loin. Et peut-être que je vais quand même me poser la question de savoir mon rapport à l'alcool. Et d'autres qui, comme le témoignage, se disent, j'aime bien ça, mais j'ai envie d'être libre, de pouvoir arrêter pendant un mois.
Justement, qu'est-ce qu'on se dit quand même si on n'y arrive pas? Alors, pas obligé de paniquer, mais qu'est-ce qu'on se dit si, à partir du là, maintenant, quelle journée, le 5, ça devient trop difficile, si vraiment c'est une lutte aussi complexe finalement que peut l'être l'arrêt de la cigarette dans un autre contexte? Qu'est-ce qu'il faut se dire? À quel moment on s'interroge en fait? Qu'est-ce qui doit sonner dans nos têtes?
Il y a plusieurs cas de figure. Le plus commun, c'est ceux qui très clairement ont une consommation rituelle, qui n'est pas problématique, mais qui est rituelle. Bon, finalement, j'ai pas tellement envie de changer mes habitudes. Je prends mon verre avec mon repas du soir. Je prends pas beaucoup et je n'ai pas de séquelles ni de stigmates liés à la consommation d'alcool. Alors, ils doivent quand même se poser la question, quelque part. Et ceux qui essayent, qui n'y arrivent pas, qui très clairement ressentent un vrai manque, et ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire cette impossibilité de pouvoir gérer, on est assiégé par l'envie de consommer. À partir de ce moment, il y a des possibilités de se cautionner un peu plus loin. Il y a des sites, des forums et de l'aide. Donc ce sont les deux cas de figure globalement. Hein. Et puis ceux qui ne sont pas intéressés, ils sont de moins en moins nombreux.
Ariane Pomerine-Villeneuve, on y a fait allusion, je le disais en introduction, et Amine Benyamina l'a rappelé aussi. C'est vrai que c'est compliqué de le faire passer ce mois sans alcool. Effectivement, l'État s'en tient éloigné, probablement pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure. Il y a un certain nombre de villes qui s'y mettent. Je suis curieuse des entreprises, moi, puisque vous êtes patiente experte et formatrice en entreprise. Est-ce qu'elles jouent le jeu, ou est-ce que là aussi c'est difficile? Alors, on est en période de Covid, donc les pots, à la radio comme ailleurs, il n'y en a plus. Mais est-ce qu'il y a cette difficulté ou pas?
Moi, je crois que j'interviens dans les entreprises qui le mettent en place, ce janvier sort. Parce que ça correspond quand même à une mentalité qui intervient dans les entreprises. On va de plus en plus quand même vers une consommation, non pas consommation contrôlée, mais dans beaucoup d'entreprises, c'est zéro alcool, c'est zéro tolérance. Donc, ce dry January, il correspond bien finalement à l'état d'esprit actuel des entreprises et qui correspond au plan gouvernemental de la Mildeca qui avait incité les entreprises à faire un focus sur la consommation d'alcool et de produits psychoactifs dans l'entreprise.
Est-ce qu'on peut parler de Covid aussi, Amine Benyamina? Je le disais en introduction, oui. C'était important pour certains, les apéros festifs. Il y a eu ce moment lié à une consommation d'alcool aussi, alors pas forcément dans des proportions terribles. Il y a eu aussi d'autres moments où on consommait chez soi et pour le coup tout seul, ce qui est un signe assez terrible. Et en même temps, on était un peu obligé. Donc, est-ce que la consommation a tangué en fait pendant cette période?
Alors, j'aime pas beaucoup les chiffres, mais je vais vous donner deux tendances.
Allez-y.
On a eu deux enquêtes qui ont été diligentée par de grosses associations. La première, c'est Addiction France l'année passée, qui a montré que on avait majoré les produits psychoactifs, les addictions, les produits addictifs, alcool, tabac, cannabis, et les consommateurs réguliers ont majoré pendant les confinements. Alors, c'est une enquête qui avait été faite avec un institut de sondage. Et là, on a une seconde enquête qui vient de sortir par l'institut de sondage CBVA, par la Ligue contre le cancer, qui est partenaire évidemment du défi de janvier, qui a montré que 41% des Français connaissent le défi de janvier et 35% le font. Donc on a des liens entre ces deux éléments, ces deux sondages. Pourquoi? Parce que une des grandes conséquences des confinements et de cette Covid, c'est le moral des Français, tout le monde le sait. Et les morales des Français, parfois on a un faux ami qu'on pense être un ami, c'est la consommation des produits parce qu'on s'ennuie, parce qu'on n'est pas bien, on les fait passer. Et le défi de janvier arrive à un moment où on a une explosion de la Covid avec le Omicron. Et les Français se sont rendus compte qu'il y avait peut-être un problème et que le fait que depuis 3 ans, ce rendez-vous vient, c'est peut-être un élément aussi qui les questionne à la fois sur leur consommation, sur leur état de santé psychique et sur la manière aussi de s'en sortir ensemble. Il y a un élément qui est très important, c'est le fait que ça soit ensemble. Un point d'histoire, le drive générique, vous l'avez dit Fabienne, est arrivé en 2013 en Grande-Bretagne. Et de fil en aiguille, c'est un phénomène qui maintenant s'est insinué dans la société britannique. En France, il est arrivé il y a 3 ans. En Belgique, c'est au mois, le mois de février. Et c'est quelque chose qui commence à prendre.
On va retourner au standard ensuite, une autre question pour vous. Bonsoir Dominique.
Bonsoir.
On vous écoute Dominique.
Merci de prendre ma question. En fait, on se posait la question avec un ami, Franck, pour pas le nommer, quels étaient les effets en termes de santé d'une absence de consommation d'alcool pendant un mois, parce que j'ai bien compris les effets psychologiques de mesure de sa consommation, mais est-ce que ça a des effets de santé comme peut avoir le jeûne alimentaire?
Eh ben, on va poser la question tout de suite, Dominique. Merci beaucoup, Ariane Pommery de Villeneuve. Est-ce qu'on se lave, en fait, comme pendant un jeûne alimentaire lorsqu'on arrête de boire pendant une période de 30 jours?
Absolument. Vous pouvez lire partout qu'il y a des bienfaits à l'arrêt d'alcool. Pour l'avoir expérimenté, je peux vous dire qu'on voit des effets positifs très rapidement après l'arrêt. Mmh. On a déjà tout de suite une meilleure peau, une meilleure mine. Et l'expérience pro, alors je l'ai expérimenté, mais d'autres personnes qui l'ont expérimenté, on voit sur les retours des années précédentes, disent bien qu'ils ne s'attendaient pas finalement à avoir ces bénéfices aussi rapides. Mm-hmm. Donc effectivement, sur la peau, sur un meilleur sommeil, on voit que les gens, ils ont un regain d'énergie.
Quelques kilos vite perdus, non?
Oui,
les kilos d'alcool.
Une perte de poids importante aussi.
Voilà, donc très, très rapidement, il y a ces bénéfices-là qui sont... qui sont réels, voilà. Ce ne sont pas des inventions, c'est quelque
chose. Non, ce sont des éléments qui ont été objectivés par nos collègues britanniques. C'est vrai, il y a la perte de poids, meilleur sommeil, une amélioration de la tension artérielle, on gagne, comme on veut, parfois deux points. C'est extrêmement important, une meilleure humeur. Et puis, en dehors de la partie humeur, il y a une espèce de sentiment d'efficacité sur soi, qui fait qu'après le mois de janvier, vous l'avez signalé tout à l'heure d'entrée de jeu, Fabienne, c'est que les autres mois, on a vécu pendant un mois, on a maîtrisé, même si c'est pas compliqué, on est capable de dire non, ben ce soir j'ai pas envie de boire, je boirai pas. Et la pression sociale amicale, on arrive à la contrôler.
Alors est-ce que c'est plus facile effectivement de lutter contre la pression sociale quand on est dans ce mois de janvier, parce qu'on peut dire moi sans alcool. Je vous pose la question parce que même dans certains bars aujourd'hui, si vous commandez un soda citron, on vous regarde comme si vous commandiez du pain chez un serrurier, je veux dire. Enfin, c'est parfois compliqué, non? Et ça reste extrêmement compliqué, non, Ariane Pommery de Villeneuve?
Oui, ça reste compliqué. Et d'ailleurs, ce qui est amusant aussi sur ces retours, c'est que c'est les personnes qui ont arrêté pendant le mois de janvier dernier se sont rendues compte à quel point cette pression sociale était importante. Donc, profitons du fait que les gens se rendent compte qu'il s'agit de pression sociale. Les réseaux sociaux marchent à plein. Les jeunes commencent à porter aussi cette démarche. Moi, j'ai mon jeune qui a mes jeunes, ils ont entre 27 et 30 ans. Ils sont dedans. Donc,
sachant que l'alcool des jeunes, on va y venir dans un instant, n'est pas le même que l'alcool des plus vieux. D'ailleurs, je voudrais qu'on écoute Nathalie avant. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
On vous écoute.
Je voulais partager mon expérience, en fait. Donc, ça fait la troisième année que j'ai entamé le drive January. Le problème, c'est que j'ai eu le Covid, le Delta, probablement parce que j'ai eu une anosmie sévère fin novembre. Et donc, j'ai pas complètement récupéré. Donc, avec, vous savez, l'anosmie, ça a vraiment une atteinte importante sur le goût et donc sur les saveurs. Et pour moi, le drive January, c'était vachement faisable parce que j'avais plein de petits... à côté gustatif positif, je me faisais des petits plats sympas et puis des petits gâteaux. Et donc j'appréhende plus en fait ce dry January parce que je me sens un peu minimisée. Alors voilà, c'est aussi indépendant du Covid, à la fois le côté psychosocial, effectivement, il y a plein de gens qui ont bu pendant cette période, moins. Mais là, je me sens atteinte par le Covid et du coup, j'ai pas accès à d'autres plaisirs. Et malgré tout, l'alcool, ça rend un peu plus calme, plus détendu, on va dire.
Et vous avez retrouvé le goût ou pas désormais?
Alors, justement, non.
Parce que la question que je me pose, c'est en fait, quand boire de l'alcool quand on n'a pas le goût, qu'est-ce que ça fait?
Alors, au niveau du vin, c'est nada. C'est très désagréable. Mais en revanche, il y a des alcools comme le muscat ou les choses très sucrées. C'est ce que j'ai fait. Ça se passe bien parce qu'il y a le sucre en fait avec. Et puis du coup, il y a l'effet au bout d'un quart d'heure qui n'est pas de consommation excessive d'alcool. Je suis bien entre des deux verres. Et puis je suis moi-même médecin et c'est vrai que je sais que c'est important de faire cette pause parce que ça re-questionne, mais aussi après, quand on reconsomme moins aussi. Mm-hmm. Voilà.
Mais du coup, là, vous vous dites, pas cette année, parce que c'est bon d'en jeter plus, quoi. C'est un peu ce que je sens en vous écoutant.
Là, c'est bon, ça va, ouais, ouais.
J'ai eu ma dose.
mais j'ai au moins le site, quoi. Ouais. Donc, voilà, je me dis, voilà, ça va être pas si simple de faire jusqu'au 31 janvier, sauf si le goût revient, quoi. Ouais, on va voir.
Eh ben, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Nathalie, on croise les doigts pour vous, surtout pour que votre goût revienne, en fait, que vous puissiez profiter aussi des petits plats. Moi, ce que je trouve très bien dans ce qu'elle dit, Nathalie, Amine Benyamina, c'est aussi, effectivement, le Covid, ça rentre toujours dans les conversations, parce que, et elle a raison, on n'a pas d'accès à d'autres plaisirs, ou en tout cas, c'est plus compliqué, ça a été plus compliqué, enfin, ça a rebattu pas mal de cartes, cette histoire.
On est d'accord, simplement, c'est ce que je dis à mes patients, hein. Je leur dis, écoutez, on a un mois de revanche, vous et moi, c'est que on est minoritaire pour ne pas consommer en période normale. Pendant le mois de janvier, il y a une dynamique qui l'emporte. Et vous pouvez dire, j'ai pas envie de consommer. Mmh. Et c'est vrai que la Covid vient rebattre les cartes parce que tout passe, sauf la Covid. Mmh. Vous voyez, on a eu à un moment donné un oubli des maladies qui tuaient. Mmh. Et on pensait à la Covid. C'est-à-dire, on a baissé la garde avec le HIV, on a baissé la garde sur le dépistage des cancers, on a baissé la garde sur un certain nombre de pathologies gravissimes qui continuent à tuer. Mais on était fixé pour des raisons évidentes parce que tout le monde était concerné par la Covid. Donc je dis à ceux qui font et qui minimisent peut-être l'intérêt de faire ce mois de janvier, ne baissez pas la garde, continuez à faire ce que vous faites, continuez à le faire sous le fond d'un défi. C'est pas 30 jours obligatoires. Et ne vous laissez pas parasiter par ce phénomène qu'on appelle la Covid, parce que ça concerne tout le monde. Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai envie de répondre à la dernière...
Notre amie Nathalie, je comprends bien si elle a perdu le goût, pauvrette, alors si tout tu veux, elle peut pas essayer les petits gâteaux, etc.
Et ben, il faut mettre des choses qui arrachent, hein, comme le gingembre, par exemple. Voilà, ben, vous voyez
Nathalie, mangez de la rissa pure, hein. Vous allez voir. Vous allez...
Oh, c'est pas exagéré.
Essayez et rappelez-nous, on vous embrasse. En tout cas, François est avec nous. Bonsoir, François.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors, moi j'ai appelé parce que je suis dans une démarche un petit peu différente. Moi, mon projet, mon ambition depuis quelques temps déjà, c'est de réussir à arrêter de fumer. Et j'ai voulu associer cet arrêt du tabac. Je me suis dit, je vais associer avec l'arrêt d'abstinence actuelle de ma consommation d'alcool. Donc, c'est un petit peu par hasard. Je m'en suis rendu compte parce que j'ai entendu sur les réseaux sociaux, par exemple, les dry January, et donc je me suis dit, pourquoi pas associer les deux? Étant donné qu'en plus, avec l'abstinence du tabac, le risque de prendre du poids, etc. Et puis, ma démarche complète, en fait, c'est de me libérer. Mmh. Et j'ai beaucoup apprécié d'entendre les propos sur, après, on a peut-être une meilleure maîtrise de sa liberté, de dire non, ce soir, je vais pas prendre une bière, je vais prendre un soft ou autre chose. Et ça me paraît...
Attendez, vous avez arrêté de fumer depuis combien de temps, François?
Alors là, c'est depuis 4 jours.
4 jours? Et vous avez arrêté de boire en même temps?
Ça va faire 5 jours, du coup, parce que... Mais c'est... Je dirais que c'est plutôt par hasard.
Ok. Eh bien, il y a Amine Benyamina, quand même, qui lève un point pour vous encourager, François, et en même temps... Je trouve ça rude, en fait, de se charger les deux épaules à la fois.
Cela dit, lorsqu'on a une motivation pour un produit, elle peut servir à un autre produit. Oui. C'est ce qu'on fait très clairement, par exemple, dans les structures comme la mienne, où on fait des sevrages. Et les patients viennent pour un produit, ensuite ils se rendent compte qu'ils ont mis tellement d'énergie, tellement de motivation, ils sont soutenus par une dynamique, ils disent, écoutez, puisque j'y suis, j'arrête tout, parce que l'un appellera l'autre. Et notamment, le couple alcool-tabac est un couple assez particulier.
Mmh. Donc du coup, on sépare tout le monde.
Pourquoi
en fait,
pas Alors, on n'incite pas les gens à tout arrêter. On n'incite pas les gens à faire du dry de tout. Mmh. En revanche, si quelqu'un le met en place, on le soutient dans cette démarche.
Mmh. Et moi, j'ai envie de rajouter, François, bravo, c'est vraiment super. Mais raison de plus, j'ai envie de vous dire d'aller pour vous inscrire sur la plateforme Dry January, parce que...
Des témoignages comme ça.
Oui. Oui, parce que vous allez trouver des témoignages comme le vôtre, vous allez pouvoir vous retrouver. Et puis, vous allez voir qu'aussi, il y a des périodes qui sont fluctuantes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne saurez pas pourquoi, mais ça va vous paraître plus difficile que la veille. Et avoir d'autres personnes avec lesquelles vous allez pouvoir échanger, ça va vous apporter beaucoup.
Et la différence dans la démarche de François aujourd'hui, c'est que désormais qu'il arrête de fumer, il n'a plus le droit de fumer une cigarette, parce que sinon, effectivement, c'est la cata et c'est reparti. Sachant qu'il a visiblement un alcool qui n'est que social et qui est très modéré, il a le droit, en revanche, de se faire plaisir, ce qui n'est pas pareil avec l'autre addiction en même temps. On l'a un peu évoqué, Ariane Combré de Villeneuve, mais à peine passé. Comment ça se joue, le Dry January, entre les générations? Parce que c'est pas le même alcool. Quand on commence à vieillir, on est plutôt dans la répétition un verre, deux verres pendant le repas, etc., des choses comme ça. Les jeunes sont plutôt dans le binge drinking, c'est-à-dire d'en prendre beaucoup d'un coup, ce qui permet d'être sous assez plus vite.
Très rapidement,
c'est à
oui.
ça que qui joue, enfin que certains, en tout cas dans certaines soirées. Donc, est-ce qu'ils vivent le mois de janvier sans alcool différemment?
Oui, ils vivent un peu différemment parce qu'il y a, pour ceux qui font le binge drinking, il y a cet effet cap, je suis cap de le faire, et du coup ce défi entre potes qui est très important. J'ai envie de dire que pour ceux qui sont plus âgés, il y a quand même cette idée de se faire du bien. Mmh. Après c'est ce mois d'excès, après ce mois de décembre où quand même on n'a pas pris que du bouillon. Mmh. Il y a aussi cette motivation d'aller faire du bien à son corps. Donc on n'est pas tout à fait sur le même type de motivation.
On la connaît la moyenne d'âge d'ailleurs de les fameux 35% de Français qui font ce mois sans alcool. Est-ce qu'on sait si c'est plutôt des plus de 40 ans, plus de 50 ans, plutôt moins? C'est découpé comment?
J'ai une idée.
49,
ouais. Vas-y, je t'en prie.
J'ai des 17-49.
C'est ça, c'est 17-49. Mais c'est vrai qu'on...
17-49, c'est-à-dire entre 17 et 49 ans?
Oui, ils sont intéressés. Alors moi, je vais vous dire, je suis étonné parce que, évidemment, je promeux avec la Fédération Française d'Addictologie, mais pas que, Addiction France, la SFA, tout ça, ce mois de janvier. Mais je suis étonné parce que le 1er janvier, j'ai reçu un premier texto de mes enfants, j'en ai entre 18 et 25 ans, qui m'ont dit, hop, on attaque sur le dry. Je leur ai pas demandé de le faire, hein, mais moi c'est ça le premier. Et ils étaient pas seuls. Il y a des jeunes, ils sont en école de commerce. Ils ont
bon, en même temps, ils vous connaissent, ils savent ce que vous faites dans la vie.
Oui, peut-être qu'ils voulaient me faire plaisir parce qu'on n'était pas ensemble. Ou alors m'annoncer que la veille, ils avaient fait un peu des excès.
Il y a Eric qui est à Meaux sur franceinter.fr et qui dit « Pour la troisième année consécutive, j'entame un mois de janvier sans alcool. C'est un petit défi car ni ma femme ni nos nombreux amis ne participent. Et j'avoue que c'est pas si facile de ne pas boire pendant 30 jours, dit-il. C'est d'autant plus difficile que je me fais charrier, moquer, etc. » C'est compliqué de le faire tout seul, en effet, Ariane Pommery de Villeneuve.
Oui, c'est compliqué. Et là, il révèle effectivement, ce témoignage révèle quand même la difficulté de personnes qui... Eh ben, de l'entourage et des représentations sociales qui sont liées à la consommation d'alcool. Parce que très vite, il y a quand même d'un côté ceux qui boivent et qui sont des bons vivants. Mmh. Et puis de l'autre, il y a ceux qui boivent trop, ou qui boivent, enfin, ceux qui boivent pas du tout et qui sont considérés comme des gens ennuyeux. On peut le dire, hein, c'est vraiment comme ça que c'est.
On n'est pas aidé en matière de dénormalisation de l'alcool en France, vous l'avez dit. Hein. C'est pas simple, hein. Je veux dire, la norme c'est de consommer, alors que non, la norme ce n'est pas de consommer.
Eh bien justement, tiens, Catherine est à Saint-Nazaire et pourrait alimenter cette partie de discussion dans laquelle nous sommes. Bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir. Alors moi j'appelle parce que je me sens un peu en décalage par mon regard et mon vécu. En fait, moi je suis vraiment pour les plaisirs de la vie et manger quelque chose de bon, boire un bon verre, pour moi c'est important. Ce qui fait que je me situe pas du tout dans les pressions sociétales de diabolisation. Moi, je serais plutôt pour favoriser une éducation jeune sur les papilles, le goût, etc. et avoir plutôt une approche épicurienne. Parce que je pense que plus on diabolise et plus on instaure des dépassements et des manques. Mmh. Donc, je trouve que c'est vraiment important. Moi, j'aime bien boire un verre. Est-ce que j'ai bu un peu plus pendant le Covid? Oui, parce que je faisais des apéros en visio. Mais alors, c'est pas un problème pour moi. J'ai adoré ça. Et puis après, une fois que ça a été terminé, je suis revenue à mon petit rythme d'un bon petit whisky de temps en temps. C'est vraiment très important parce qu'on a des vies où on met beaucoup l'accent sur ce qui est sombre, ce qui est trop, ce qui est pas assez. Et pour moi, c'est important de garder ces plaisirs de la vie. Je suis sûre que si on était éduqué jeune, il y aurait moins de dépassements plus tard. Et ça, j'aimerais bien qu'on aille plutôt vers ça, hein, vers les plaisirs. Et puis par contre, il y a une expérience que un jour, j'aimerais bien qu'on tente tous, c'est un mois sans télé.
Mmh. Ma foi, pourquoi pas, c'est moins mauvais pour la santé en soi, on ne perd pas de... Ah, j'allais dire, si, peut-être qu'on perd des kilos quand on arrête de regarder la télé,
peut-être.
Parce que ça évite de manger des chips pendant, allez savoir. Mais pourquoi pas, Catherine, la suggestion, elle tient, vous savez, il y a une histoire de journée sans portable qui ne marche pas, donc imaginez, le mois sans télé. J'aimerais quand même, Amine Benyamina, que vous répondiez à notre amie Catherine,
sûr,
qui parle de plaisir
absolument.
De la vie, d'être épicurienne.
On le fait 11 mois sur 12, ça pose pas de problème, et le 12e mois, ce n'est pas un mois de sinistrose, c'est pas ça du tout. C'est clairement pas le but de ce mois de janvier, vraiment pas. Et puis l'éducation, oui, absolument, mais l'éducation doit aussi s'associer à des informations que les pouvoirs publics ne font pas sur les risques liés à l'alcool. On a 42 000 morts en France directement liés à l'alcool. Et on ne sait rien de ce que c'est que l'alcool. Vous le savez, ce mois de janvier, ce défi de janvier, il est porté par des associations qui n'ont pas été soutenues par les pouvoirs publics.
Oui,
hein.
Oui,
tout le monde le sait, hélas. Et donc le but, ce n'est pas d'ennuyer. J'allais pas dire l'autre mot parce qu'il est trop à la mode,
oui,
et surtout aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'amener les Français à se questionner sur... quel est leur rapport avec ce produit qui fait 42 000 morts et qui très clairement nous positionne en tête de peloton des peuples et des citoyens qui consomment le plus.
D'ailleurs, de quoi on meurt quand on meurt d'alcool, Amine Benyamina, c'est quel...
Bon, on a des organes cibles, le foie, le cœur, le cerveau, les seins. Vous savez que l'alcool, le cancer du sein, il y a un lien direct avec l'alcool et le cancer du sein. Donc on a vraiment une soixantaine de maladies dont la plupart ont lien avec soit des cancers, soit ce qu'on appelle du cardiovasculaire. Et c'est une réalité.
Et on est d'accord que c'est l'excès qui provoque ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs sur la moyenne en lisant ici et là? Est-ce qu'on est resté toujours à 10 verres par semaine max?
Alors,
par exemple,
vous savez ce qu'on appelle... les seuils de consommation,
oui,
ce sont des seuils théoriques où on dit qu'il ne faut pas dépasser 2 verres par jour sur 10 jours avec 2 jours
sans
consommation. Mais pour autant, en fonction du sexe, de la conformation et des autres produits consommés, on peut déclencher des maladies avec moins que ça. Ou alors on peut passer au travers des maladies avec plus que ça. C'est toujours pareil. Hein.
Allez-y, Ariane Pombride-Villeneuve.
Mais moi, je trouve que là, on est vraiment dans de la prévention. Parce que finalement, amener les gens à s'interroger, et même nos jeunes, puisque finalement, on voit qu'ils commencent jeunes, ce défi. Et bien finalement, ça va permettre à toutes les personnes qui n'ont pas de problème de se dire, eh ben, très bien, comme nos auditeurs, de tout à l'heure, on continue. Ça va permettre à ceux qui auraient l'impression qu'ils n'ont aucun problème de se dire, ah ben finalement c'est peut-être pas si simple que ça, et à ce moment-là de trouver des consultations, d'aller poser des questions, parce que finalement la grande difficulté du sujet de l'alcool, puisque c'est celui-là dont on parle ce soir, c'est le silence, et que dans le fond on se rend bien compte que il y a quelque chose qui reste quand même... Tout le monde va parler de sa consommation d'alcool, mais va pas parler de sa consommation d'alcool intime. Celle qui est difficile et celle qui est inavouable. Alors en fait, le silence tue plus que les produits, et cette démarche qui consiste à... Voilà, on va parler de nos difficultés autour de ce défi, on va parler... Alors si on se rend compte qu'on n'arrive pas à le faire et que c'est trop compliqué, et ben ça peut rester très intime, on n'est pas obligé d'annoncer à tout le monde qu'on va faire ce défi. Donc il est très libre aussi, conditions de réalisation de ce défi sont très large et libre. Et là, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment un outil très intéressant en termes de prévention.
Forcément, Émilie nous pose la question sur franceinter.fr parce que ça vient souvent dans notre conversation. Le mois sans tabac est soutenu par l'État, par la Sécurité sociale, etc. Pas le mois sans alcool. Est-ce que c'est simplement dû au fait qu'on produit de l'alcool mais pas du tabac? Ou plus du tabac?
Bon, c'est une grande proportion de la réponse. Hein, à mon avis, il y a un peu de ça. Très clairement, très juste. Si on compare un peu les chiffres, 75 000 morts le tabac, 42 000 morts l'alcool, il y a une vraie politique tabac en France, il n'y a pas de politique alcool en France. Et donc clairement, on en est là. Il y a 3 ans, on avait poussé en gros les agences à pouvoir nous soutenir pour ce défi de janvier. C'est un secret pour personne. Il y avait des moyens qui avaient été alloués, il y avait une réflexion qui avait été entamée, qui a été stoppée net. Stoppée net, carrément. Et puis c'est comme ça qu'on s'est lancé seul. Et puis ça a marché. Je peux vous assurer qu'en 3 ans, ça a marché. La preuve, on est régulièrement invité. Je vous remercie, hein, Fabienne, chez vous. Et la presse l'a compris. Il y a un vrai quelque chose. Il y a un écho auprès des Français qui n'est pas le fait du hasard, parce que instinctivement, on se rend bien compte que il y a peut-être quelque chose à faire quelque part.
Bonsoir, Frédéric.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Frédéric.
Ben voilà, en fait, moi, j'ai entendu parler de cette histoire de janvier sans alcool. Bon, en fait, moi, je vais avoir 56 ans demain, et je me suis dit, au 1er janvier...
Joyeux anniversaire.
Merci à vous, merci, Madame Sainté. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais quand même pas attaquer au 1er janvier, je vais attaquer au 6. Mm-hmm. Voilà, donc demain, c'est un peu une idée compliquée, parce que moi, je suis un consommateur d'alcool, comme tous les gens que je côtoie, comme tous les gens de ma famille. Et j'ai essayé aussi de m'arrêter deux, trois fois. Ça a été le cas, hein, pendant plusieurs mois, et puis j'ai remis une couche. Et puis, voilà. Et puis après, que vous dire de plus? J'entendais les personnes qui sont à vos côtés qui disaient clairement que le tabac est aidé par le gouvernement et tout. Et puis là, j'ai entendu quand même sur votre antenne il y a 2-3 jours que Monsieur Macron a été élu homme de l'année par les vignerons de je ne sais où. Voilà. Donc si vous voulez. Et puis c'est aussi... je veux dire, c'est aussi la consommation d'alcool est tellement facile. Hein. Je veux dire, c'est sûr qu'on nous interdit d'aller dans les bars, dans les restos et tout, mais si on va au supermarché, on peut boire des canons, hein, de la même
certes
façon.
Oui, certes,
voilà,
oui.
Voilà.
L'alcool est bien accessible. En tout cas, Frédéric, alors d'abord, je trouve que vous avez bien fait d'attendre votre anniversaire, parce qu'il ne faut pas non plus se faire de mal. Enfin, je veux dire, honnêtement, Et en même temps, bon courage, on croise les doigts pour vous, mais peut-être que du coup vous arrêterez le 6 février, non? Pour être vraiment dans les clous.
Ouais,
ou d'arrêter le 30 janvier.
En même temps, franchement, là, c'est un défi, mais j'y crois peu. Mm-hmm. J'y crois peu. En plus de ça, avec tout ce que j'entends aujourd'hui, moi je fais partie des gens qui emmerdent aussi les autres, et puis c'est des termes qu'il faut utiliser aussi. Mais je m'arrêterai sûrement, ou au moins je profiterai tranquillement des choses.
Merci beaucoup Frédéric, merci pour votre témoignage. C'est marrant parce que ce que je trouve intéressant, c'est quand les gens y vont, et je les remercie vraiment de nous appeler pour ça, c'est je vais tenter le coup.
Bien sûr.
Je sais que ce sera pas simple, parce que faut pas se leurrer, non forcément, pour beaucoup de gens c'est pas si simple.
Absolument. C'est pas simple, et tout le monde qui trouve cela pas simple n'est pas forcément malade. Mm-hmm. C'est surtout ça qu'il faut avoir en tête.
On va écouter Benoît dans un instant, mais il y a beaucoup de questions dans ce sens aussi. Est-ce que une trop grande consommation, qui n'est pas non plus une consommation hyper excessive, mais enfin quand même une trop grande consommation dont on peut se rendre compte dans un mois comme celui-là, emmène forcément vers l'alcoolisme? Est-ce que c'est cette pente-là, Amine Benyamina, ou pas?
Alors l'alcoolisme, j'aime pas ce mot, mais c'est simplement comme ça, il faut appeler un chat un chat. C'est quand même des facteurs qui se surajoutent. Il y a le produit, la quantité, mais il y a aussi la personne qui le consomme, l'environnement dans lequel on consomme. C'est trois éléments intriqués qui font qu'à un moment donné, ce produit prend possession de votre vie, de votre corps et de votre cerveau. Voilà. Donc, ce n'est pas que la grosse consommation. Il y a des gros consommateurs qui n'ont pas de problème avec l'alcool, il y en a beaucoup. Mais pour autant, la consommation, c'est aussi un facteur déterminant. Vous voyez, dire à une personne, arrête de consommer, tu consommes beaucoup et tu n'auras plus de problème avec l'alcool, c'est vrai et faux à la fois, parce qu'il y a des personnes qui ont un rapport à l'alcool particulier. Moi, je connais des personnes, des patients qui viennent me voir parce que ils boivent pratiquement pas, et quand ils boivent, ils sont pathologiquement buveurs. Ils s'en prennent à tout le monde, ils boivent beaucoup, ils prennent des risques, donc ils ont un rapport à l'alcool qui est particulier.
Benoît, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Benoît.
Oui, alors voilà, je vous appelle de Dijon, je vous appelle un peu pour encourager et donner aussi malheureusement une sorte d'avertissement. Je suis malade alcoolique, consommateur, malheureusement, parce qu'il y a des malades alcooliques abstinents, savoir que quand on est malade alcoolique, on le reste à vie, quel que soit son rapport à l'alcool. Voilà, je voulais effectivement donner, non pas un conseil de vieux con aux jeunes, mais c'était pour dire de saisir cette opportunité de ce mois de janvier pour faire un point très très précis, effectivement, par rapport à sa propre consommation. C'est aussi une occasion de pouvoir à nouveau faire preuve de vigilance, justement, par rapport à ce que l'on consomme et la quantité que l'on consomme. Je le dis simplement parce que moi, je suis tombé dedans il y a longtemps maintenant, et que malgré plein de tentatives, j'y suis toujours, et que l'alcool, faut comprendre qu'une fois, et c'est très insidieux et ça va très vite, une fois qu'on y est, c'est un enfer.
Merci mille.
C'est un enfer. Et voilà. Et je trouve d'ailleurs scandaleux par rapport à ça que l'État ne se mouille pas plus là-dessus, parce que ce sont des témoignages qui devraient être faits dans les baillis dès la seconde, dès la troisième. Et là-dessus, la position de l'État est absolument lamentable.
Benoît, merci beaucoup. Pardon de vous avoir interrompu tout à l'heure. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci vraiment. Moi, j'aime bien quand il dit Ariane Pommery de Villeneuve, Benoît, une fois qu'on tombe dedans, après, c'est foutu quand même. Enfin, comme toutes les addictions. Mais l'alcool aussi. Et c'est bien de le souligner sur le témoignage de Benoît.
Oui, ben merci Benoît. Et puis merci d'avoir le courage de communiquer comme ça et de nous appeler. Quand j'ai parlé de prévention tout à l'heure, c'était bien à ça dont c'était bien ça dont je faisais. Je faisais
sur
allusion
à
ça.
Faisiez allusion,
oui. Oui, c'est à quoi je faisais allusion parce que, voilà, très honnêtement, si le Dry January avait existé avant, je suis sûre que j'aurais gagné des années et des années de vie. Parce que c'est aussi en termes d'années de vie que voilà, je suis une ancienne buveuse. J'ai la grande chance d'avoir arrêté et puis d'avoir arrêté de manière, en termes de qualité de vie, très heureux. Je crois pas que je fasse. Je donne envie de pleurer.
Je le confirme.
Non, mais tout ça pour dire que voilà. Je pense que s'il avait existé, j'aurais gagné beaucoup d'années. J'aurais osé aller poser des questions. J'aurais osé aller taper des portes de soignants. J'aurais été voir Amine, probablement.
Parce qu'on se sent moins seul, c'est ça l'idée ce moment-là, quand on est plusieurs à jouer. C'est pour le coup là comme le mois de novembre.
Non, mais franchement, c'est une chance. Honnêtement, c'est une chance. C'est quelque chose qui n'est pas contraignant. On le fait tous ensemble. Ça a pris dans la société. Ça permet à ceux qui consomment sans difficulté de s'éprouver. Ceux qui ont des difficultés de ne pas se sentir stigmatisés. Isolé. Et ça permet aussi de mettre à l'ordre du jour un problème qui n'existe pas, parce qu'il est dénié à la fois par la dynamique de la maladie et en même temps dénié par les pouvoirs publics. Et c'est vraiment le moment de saisir cette chance.
Et c'est vrai que quand on est plusieurs, c'est plus facile. J'étais en train de chercher la dernière question. Là, voilà, quand on est plusieurs, c'est plus facile. On peut aussi parler en étant sur le site avec ceux qui participent en même temps, parce qu'il y a des chats, parce qu'il y a tout ça, et c'est important. Ariane Pommery de Villeneuve. Liens. On peut accrocher des gens qui font la même chose que vous en allant chercher sur le site. Peut-être que ça peut aider.
Mais ça, c'est fondamental, parce que ce qui va nous aider si on a des difficultés, c'est à la fois d'avoir un addictologue, mais en même temps, c'est partager avec ses pairs, et c'est exactement l'objet de ces
site. Très rapidement, une question d'Eva qui nous vient de Provins. C'est rigolo parce que quand on arrête de fumer, on nous dit toujours mange une pomme ou bois un verre d'eau à la place. Franchement, c'est débile, ça ne marche pas. Eva nous demande par quoi on peut substituer l'alcool quand on a un manque. Ça existe, ça? Quelque chose qui permet de substituer ou pas?
Par la bonne humeur, éviter le sucre.
Ah ça marche pas pareil. Je suis pas sûre. Mais je vous remercie beaucoup. Merci pour le rire en tout cas. Aussi, merci à tous pour vos très nombreux appels. Portez-vous bien.